Je vous invite à prendre une Bible si vous voulez suivre la lecture avec moi. Nous commençons une nouvelle série de prédications dans l'évangile de Marc, le deuxième des quatre évangiles que nous trouvons dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Et donc nous allons commencer à partir du premier chapitre et du premier verset. L'évangile de Marc, chapitre 1, verset 1. Voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, conformément à ce qui est écrit dans les prophètes. Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. » Jean parut. Il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Toute la région de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient vers lui. Reconnaissant publiquement leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans l'eau du Jourdain. Jean portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Après moi vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de me baisser pour détacher la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » À cette époque-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir, et l'Esprit descendre sur lui, comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel. « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après que Jean eut été arrêté, Jésus alla en Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il disait, « Le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. » Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu, je prie de garder ce texte devant les yeux. Imaginez pour un instant qu'on vous a demandé d'écrire la biographie de quelqu'un de célèbre que vous aimez beaucoup. Peut-être que c'est un personnage historique, ou bien peut-être un auteur, un écrivain, ou un réalisateur de films, ou un musicien connu, ou peut-être un homme politique. Quelqu'un qui, pour vous, a eu un impact sur ce monde et dont l'histoire mérite d'être raconté. Et c'est à vous d'écrire leur histoire. Donc, une question, par où commencer? Est-ce que votre livre commence à l'essence de la personne? Ou est-ce que vous remontez un peu pour parler de leurs parents, leur contexte, leur arrière-plan? La question, en fait, c'est qu'est-ce qui est absolument nécessaire, qu'est-ce qui est incontournable pour comprendre cette personne. Un jour, un certain Marc a décidé d'écrire l'histoire de l'homme le plus extraordinaire qui ait jamais vécu sur cette terre. L'homme qui a eu le plus grand impact sur notre monde de toute l'histoire humaine. Aujourd'hui, nous comptons nos années à partir de sa date de naissance. Un tiers de la population mondiale suit son enseignement et se considère ses disciples. Marc a décidé d'écrire la biographie de Jésus de Nazareth. Et donc, Marc, il aurait dû se demander, mais par où je commence ? Qu'est-ce qui est absolument nécessaire? Qu'est-ce qui est incontournable pour comprendre Jésus au début de son histoire. Et c'est dans ces quelques lignes que je viens de lire, du début de son livre, que nous avons la réponse de Marc. Nous voyons Jésus qu'à partir du verset 9, ses premières paroles qui nous sont rapportées sont là au verset 15. Mais Marc rassemble toute une foule de personnes qui nous parlent de Jésus, de son identité, de sa mission. Ils sont, si vous voulez, les témoins du roi qui nous disent qui est Jésus et pourquoi il est venu. Donc Jésus nous donne une série de témoins pour parler de ce Jésus que nous n'avons pas encore rencontré. Et peut-être pour quelqu'un ici ce matin, c'est votre situation. Vous avez entendu parler de Jésus sans avoir bien compris qui il est ou ce qu'il est venu faire. Ou peut-être qu'on pense le savoir, mais sommes-nous prêts à être surpris par la manière dont Marc décrit la personne de Jésus et sa mission. Même si nous sommes chrétiens depuis un certain temps, peut-être qu'on sera surpris par ce que Marc nous livre sur l'identité de Jésus. Donc, prêtons attention à tout ce qu'il nous dit ici. Alors, qui sont ces témoins ? D'abord, c'est Marc lui-même qui apparaît comme le premier témoin au verset 1 pour dire que Jésus est le roi que Dieu avait promis d'envoyer pour restaurer son règne. Regardez avec moi le premier verset. « Voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. » Il y a 2000 ans, dans un monde dirigé par l'empereur à Rome, Marc dit que le roi que Dieu a établi, c'est quelqu'un tout autre. Le mot Christ, ce n'est pas un nom de famille. Les parents de Jésus n'étaient pas Monsieur et Madame Christ. Non, c'est un titre qui veut dire le roi désigné par l'onction. C'est avec l'onction d'huile qui à la place d'une couronne. C'est le Messie. Et donc aujourd'hui, dans un monde dirigé par les présidents des grands pays, peut-être également par les entreprises multinationales, Marc dit que Jésus est celui qui doit régner sur nous si nous voulons entrer dans le royaume de Dieu. Mais les deux versets qui suivent révèlent que Jésus n'est pas simplement le roi envoyé par Dieu, c'est Dieu lui-même. Les témoins que Marc appelle au verset 2 et 3 sont des prophètes de l'Ancien Testament qui montrent que Jésus est Dieu qui accomplit le plan de Dieu. Verset 2, conformément à ce qui est écrit dans les prophètes, « Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Rendez ses sentiers droits. » En fait, Marc nous donne une prophétie double. C'est composé d'un verset du prophète Malachie et un deuxième du prophète Ésaïe. Tous les deux montrant que Jésus et Dieu lui-même. En fait, dans la première prophétie, Malachie rapporte les paroles de Dieu qui dit « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. » Mais Marc fait un tout petit changement dans les paroles, il change « mon messager devant moi » à Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. Pour montrer clairement que quand Jean-Baptiste prépare le chemin pour Jésus, il accomplit une prophétie qui montre, qui est une prophétie qui déclare qu'il prépare le chemin pour Dieu. Jésus est Dieu lui-même. Et dans cette deuxième prophétie d'Ésaïe, c'est encore plus clair que c'est Dieu lui-même qui est en chemin. Le texte en Ésaïe dit, une voix crie, « Préparez au désert le chemin de l'Éternel, de Yahvé, le nom personnel de Dieu, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. » La prophétie en Malachie parle de Dieu qui viendra en jugement un jour, le jour du Seigneur, pour punir le mal et restaurer la justice parfaite. Et donc Marc, en citant cette prophétie, dit « Voici ce que Jésus est venu faire ». La prophétie d'Ésaïe parle de Dieu qui met fin à l'exil de son peuple, d'au-delà du désert où ils sont coupés de sa terre promise, de leur terre promise et de la bénédiction. Marc déclare que Jésus est celui qui restaurera, qui fera rentrer le peuple de Dieu dans sa bénédiction, dans la terre promise du paradis, de la nouvelle création. On a tous eu l'expérience, je crois, d'être enfermé dehors, de rester coincé devant la porte d'un immeuble sans avoir la clé, d'attendre la personne qui vient nous ouvrir. Sans Jésus, nous sommes dans une situation similaire, enfermés devant la porte du ciel et le règne parfait de Dieu, de sa justice et sa paix. Mais en Jésus, c'est Dieu lui-même qui est venu nous ouvrir les portes du paradis. Donc si on se considère chrétien, mais on ne croit pas encore que Jésus, c'est Dieu lui-même, ou peut-être que l'on doute qu'il y aura un jour où Dieu viendra punir le mal, alors nous devons revoir notre conception, notre compréhension de Jésus. Et si on ne croit pas avoir suffisamment de preuves que l'histoire va vers cette destination, alors il nous faut écouter les témoins que Marc nous rassemble ici. Des siècles après ces deux prophéties, une prophétie de messager, Malachie, Marc continue au verset 4. Jean parut. La partie des prophéties qui pouvaient s'accomplir dans l'histoire humaine ont été accomplies par le prochain témoin, Jean-Baptiste. Jean parut, baptisé dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Toute la région de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient vers lui. Reconnaissant publiquement leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui, dans l'eau du Jourdain. Jean portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Après moi vient celui qui est plus puissant que moi ». Et je ne suis pas digne de me baisser pour détacher la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Jean se présente exactement comme l'a dit la prophétie de Malachie au verset 2. C'est un deuxième Élie. Son message est pareil à celui d'Élie, que le peuple d'Israël a besoin de se repentir, et il s'habille comme le faisait le prophète Élie. Mais il va au-delà de ce qu'a dit Élie, quand il signale en Jésus celui qui va baptiser du Saint-Esprit. Baptiser veut dire simplement « plonger dedans », et c'était un mot que Marc utilise plus tard dans l'Évangile pour quand il parle de laver des coupes et des assiettes. Mais là, le baptême est donné un sens précis au verset 4. C'est un baptême de repentance en vue du pardon des péchés. Être baptisé, c'est dire j'ai besoin du pardon. Mais ce n'est pas le baptême en lui-même qui peut apporter ce pardon. Jésus est celui qui fait cela. C'est Jésus qui nous lave de l'Esprit de Dieu, qui opère cette purification. Et le baptême est le symbole de cela. Le baptême nous montre ce qu'est le pardon. Le pardon, c'est d'être lavé de ses péchés par Jésus, qui nous donne son esprit pour nous transformer de l'intérieur. Et donc, il nous faut poser cette question. Est-ce que je me suis déjà repenti de mes péchés? Est-ce que j'ai demandé à Jésus de me pardonner? Et soyons clairs que l'acte symbolique du baptême ne suffit pas. Il est possible de se faire baptiser sans être repenti. Il se peut que parmi nous, il y en a qui ont été baptisés enfants. Peut-être certains qui disent « Oui, je suis du bon côté. Je suis en règle avec Dieu à cause de cela. » Mais c'est Jésus et lui seul qui peut nous purifier devant un Dieu saint. Et nous devons mettre notre confiance en lui et non pas en notre baptême. Il peut y avoir d'autres personnes qui se sont repenties, qui ont mis leur confiance en Jésus pour le pardon, mais qui n'ont pas encore reçu le baptême d'eau. Et si c'est votre cas, je vous encourage à demander le baptême. C'est important pour nous, pour les chrétiens, de confesser publiquement que nous avons reconnu notre besoin du pardon. Et le baptême, c'est le symbole que Dieu nous a donné pour cela. Les derniers témoins que Marc nous présente avant Jésus lui-même, ce sont l'Esprit de Dieu et Dieu le Père. Dans les versets 9 à 13, et leur témoignage, c'est que Jésus est le serviteur souffrant qui est venu vaincre Satan. Regardez avec moi ces versets. À partir du verset 9, à cette époque-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée. Il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel. « Tu es mon Fils bien-aimé. » Tu as toute mon approbation. Aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Peut-être qu'on est surpris qu'après avoir défini le baptême de repentance en vue du pardon des péchés, Marc nous raconte tout de suite que Jésus se fait baptiser lui aussi. Mais Jésus n'avait pas de péché. Quelle raison avait-il pour cet acte symbolique? Marc, enlève tout le doute que Jésus aurait fait quelque chose pour déplaire à Dieu, parce que du moment où il sort de l'eau, il entend la voix du ciel. Tu es mon Fils bien-aimé. Tu as toute mon approbation. Donc pourquoi Jésus a-t-il accepté le baptême? A-t-il demandé le baptême? En fait, c'est l'acte d'identification avec un peuple pécheur. Si moi je voulais m'identifier à une équipe de foot, ben je pourrais acheter et porter le maillot. D'accord? Je sais que je ne jouerai jamais comme lui, mais je peux au moins porter le même maillot pour m'identifier avec mon équipe. Jésus voulait s'identifier avec l'humanité pécheresse. Donc bien que n'ayant pas besoin lui-même du pardon, il prend l'identité d'un pécheur en se faisant baptiser. Clairement, Jésus a compris, même à ce moment-là, qu'un jour, il allait s'identifier avec les pécheurs en prenant leur place sur la croix, en payant le prix du péché à leur place. Et la voix du Père, qui vient du ciel, qui retentit du ciel, confirme son identité comme celui qui portera le péché de beaucoup. Peut-être qu'on ne capte pas toute la portée de ce que dit cette voix du ciel, jusqu'au moment où on se rend compte que cela consiste en des citations de l'Ancien Testament. Et cela doit nous faire réfléchir. Si jamais un jour on entendait la voix de Dieu parler du ciel, on sera tout ouïe pour dire « Qu'est-ce qu'il va nous dire ? Dieu, qu'est-ce qu'il va nous dire ?» Et là, c'est comme si Dieu dit « En fait, c'est déjà écrit. » Parce que que dit la voix du Père ? Tu es mon Fils. On trouve cela dans le psaume 2, verset 7. Dans ce psaume, cela est dit au Messie, au roi désigné par l'onction, à qui Dieu donnera les extrémités jusqu'aux extrémités de la terre comme héritage. Et puis en Ésaïe, encore au prophète Ésaïe, chapitre 42, verset 1. « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. » Autrement dit, tu as toute mon approbation. J'ai mis mon esprit sur lui. Il dit cela au serviteur, dans cette partie du prophète Ésaïe, les cantiques du serviteur qui vont continuer à parler du serviteur souffrant qui sera compté parmi les transgresseurs et qui va porter le péché de beaucoup. Donc en fait, c'est cette parole toute simple, « Tu es mon fils bien-aimé, tu as toute mon approbation » pour ceux qui se donnent la peine de chercher les références. Le Père révèle Jésus comme le roi choisi pour régner sur le monde entier et qui va établir ce royaume en mourant à la place des pécheurs. Et les versets 12 et 13 montrent que c'est l'Esprit qui pousse Jésus à révéler quel est le sens de sa mort. Ce sera de vaincre Satan que Jésus rencontre seul dans le désert. Oui, peut-être qu'il y avait des bêtes sauvages, des anges qui le servaient, mais aucun être humain avec Jésus, aucun être humain ne peut espérer vaincre Satan, combattre Satan. Il nous faut laisser Jésus combattre Satan à notre place et le vaincre, ce qu'il allait faire par sa mort à la croix. Et cela nous amène au verset 15 et le dernier témoin est le plus important, Jésus lui-même. Ces versets de l'évangile de Marc ont tous renforcé le même enseignement. L'évangile, la bonne nouvelle, est centrée sur Jésus. Et Jésus a le même message. Verset 15, « Le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. » Je ne sais pas si vous avez jamais été à une soirée, à une fête, et puis vous entendez quelqu'un qui sonne et qui arrive. « Ça y est, je suis là, la fête peut commencer. » Est-ce qu'il est gonflé, lui? Ce serait une arrogance suprême pour Jésus de dire « Ça y est, je suis là. Le moment est arrivé. Le royaume est là. si ce n'était pas en fait lui, Dieu lui-même, au centre du plan de Dieu, au centre de l'histoire du monde et du temps. Et son message, c'est que Jésus est lui-même le royaume venu en personne pour apporter toutes les bénédictions promises par Dieu. Verset 14, « Après que Jean eut été arrêté, Jésus alla en Galilée, proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et disait, « Le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Jésus dit, « Ça y est, je suis là, la personne que l'univers entier attendait. Ça y est. » C'est le moment. Le royaume est là. Je suis sur terre. Le royaume, ça veut dire le peuple de Dieu, dans le lieu que Dieu a choisi. Le règne et la bénédiction de Dieu. Jésus dit, tout cela est présent dans ma personne. Jésus n'est pas seulement le roi du royaume. Il est en lui-même le royaume. Et si nous voulons faire partie du peuple de Dieu, si nous voulons vivre dans le lieu que Dieu a choisi, sous son règne, et vivre ses bénédictions, il nous faut nous attacher à Jésus, qui est en lui-même ce royaume. Et nous voyons dans ce passage que cela nous est possible. Comme Tim nous a dit, c'est possible, c'est Jésus qui peut nous baptiser en nous donnant son Esprit Saint, pardonner nos péchés. Et donc il n'est pas surprenant que Marc, dans ce verset 15, fait porter l'accent sur le message qui s'est adressé à Jésus. Il adresse cela, mais c'est comme... dans certains films ou certaines séries, un des personnages tourne vers les spectateurs et leur parle directement. Ce que Jésus dit ici est tout à fait valable pour chacun. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Jésus dit, je suis l'homme, l'être humain le plus extraordinaire, le plus important de toute l'histoire du monde. Je suis celui qui peut vous ramener à Dieu. Ce qu'il vous faut faire, c'est se repentir, reconnaître que nous sommes pécheurs, que nous avons besoin du pardon, et de croire à cette bonne nouvelle. Croire que Jésus est celui qui peut nous laver de nos péchés et nous faire entrer dans le royaume, parce que c'est lui qui se mettra à la place des pécheurs en mourant à la croix. C'est cette bonne nouvelle si grande, si glorieuse, que nous allons commémorer maintenant par le partage du repas du Seigneur, ce pain et cette coupe qui... peut-être joue le même rôle que les témoins que Marc a fait défiler dans ce texte. Ces témoins qui fait porter toute notre attention sur Jésus et sur sa mort. Donc, je vous invite, si cet évangile est une réalité pour vous, si cela a du sens, si vous êtes de ceux qui se sont repentis, et qui ont cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur, de prendre avec reconnaissance le pain et la coupe en souvenir de sa mort et de sa résurrection. En seulement 15 versets, considérez tous les témoins que Marc a rassemblés. Tout ce qu'ils disent sur son identité, l'identité de Jésus et sa mission. Et nous ne sommes qu'au tout début de sa biographie. Nous venons tout juste de rencontrer cet homme Jésus. Nous avons tout le reste de l'Évangile pour découvrir en profondeur le sens de toutes ces choses. Mais pour le moment, il y a un appel clair. Verset 15. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Voilà l'appel de ce texte. Quelle est notre réponse? Ce sera quoi pour nous de répondre à l'appel de Jésus? Je vous invite à un moment de silence, de recueillement, et puis nous allons partager le repas du Seigneur.